Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Dans très peu de temps, dans ce podcast, on va se poser la question de ce que la pandémie révèle, très cruellement d'ailleurs, des inégalités flagrantes de nos sociétés modernes. Des inégalités sociales, sexuelles, raciales. La maladie et le confinement qu'elle entraîne cochent toutes les cases des segmentations habituelles et contrairement à ce qu'on a un peu trop vite voulu croire, elle est loin de s'en prendre équitablement à toutes et tous, puissants et misérables, comme disait l'autre. Bref, avant de s'intéresser donc concrètement à cette inégalité face au virus, il se trouve que nous avions depuis quelques temps déjà envie de causer d'un sujet qui nous en approche un peu. L'argent des classes défavorisées. Surtout la façon dont ces dernières l'utilisent, voire dont nous imaginons qu'elles l'utilisent. Des thématiques qui sont au cœur d'un livre qui a éveillé notre intérêt et auquel cet épisode du jour sera très largement consacré. Bienvenue dans Programme B. Ce livre, il s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?». Il est paru chez Payot, signé par le sociologue Denis Colombi. C'est le prolongement du travail qu'il mène depuis un bon moment déjà sur son blog « Une heure de peine ». Le sous-titre de son livre, notamment, nous a pas mal accroché. Ce sous-titre, c'est « Fantasme politique, réalité sociologique ». J'ai donc commencé ma discussion avec Denis Colombi en lui demandant le sens de cette formule.
Les sociologues font partie des personnes qui font ce travail d'aller sur le terrain. Quand tu essayais de raconter la réalité, tu as raconté de la façon la plus précise et la plus scientifique possible. Et paradoxalement, ce ne sont pas forcément les plus écoutés, notamment par des questions politiques qui se réclament très facilement de contact avec la réalité qu'ils n'ont pas. Sur le chat des pauvres, on en parle beaucoup. On va rarement voir ce qu'il en est. On confronte rarement les impressions, les solutions, les représentations qu'on en a avec la réalité du terrain. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer comment les sciences sociales, la sociologie en particulier, mais pas exclusivement, les sciences sociales d'une façon plus générale, permettent justement de se confronter à la réalité, d'aller au-delà des discours un peu tout faits, tes préjugés, tes représentations, tes prénotions, aurait-il Émile Durkheim, et de tous ces fantasmes politiques, finalement, qu'on peut avoir sur un objet comme la pauvreté.
Ce que le livre interroge aussi, c'est notre propre regard collectif, pour le coup, sur les comportements économiques des classes les moins favorisées, ce qu'on résume sous l'appellation des pauvres. Ce que moi je perçois, et ce que même on peut ressentir soi-même quand on s'interroge un peu sur ses propres préjugés, c'est que c'est construit dans notre imaginaire à tous l'idée que la foule, sous-entendu le peuple, c'est-à-dire les classes les plus basses socialement parlant, sont par nature déraisonnables. Ce qui est un peu le pendant de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui a irrigué comme ça un peu la pensée tout au long du XXe siècle. Est-ce qu'on est encore enfermé dans ce schéma de pensée-là et qu'on a du mal à s'en défaire ?
Il me semble que oui, qu'on est toujours enfermé dans cette idée, dans ces fantasmes et ces représentations sur les pauvres, sur plus généralement les classes populaires. Parfois, c'est sur la SAP, la SAP de la société. On a tendance à interpréter les comportements comme état irrationnel, comme état idiot, quitté par tes sentiments, par tes émotions, et à ne pas y voir ce que ça peut avoir de rationnel, de réfléchi, de calculé. Pas forcément rationnel, ça veut pas forcément dire que c'est efficace à tous les cas, que c'est parfait, mais la représentation qu'on en a, en fait, c'est souvent des personnes qui réfléchissent pas, qui réagissent à un stimuli et qui ne vont pas avoir un tas de réflexions. Que souvent, c'est le cas. On l'a vu, je pense, encore récemment au début du confinement avec les réserves faites par un certain nombre de personnes, les matchassettes et valissins, en particulier avec le papier toilette qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup rire et parfois beaucoup s'étigner certaines personnes. On a tendance à voir ça comme étant quelque chose qui est idiot, qui est mal fait, des personnes qui réagissent, oui, comme vous le dites, comme une foule qui réfléchit pas, qui est soumise à l'estat. Et en fait, si on prend la peine d'y réfléchir, je pense qu'on peut y voir des formes de rationalité. Et il faudra en fait qu'on arrive à reconnaître que la rationalité, les façons d'agir en matière économique en particulier, elles ne sont pas uniques. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire qui serait valable pour tout le monde, à toutes les époques, à tous les moments, à n'importe quel niveau de la société. Et les comportements des plus pauvres sont parfois très rationnels, mais ils sont rationnels étant donné la situation dans laquelle ils se trouvent. Moi, mon propos, c'est d'essayer de montrer que si on était dans cette même situation, dans une situation de pauvreté, on serait amené souvent à faire les mêmes choix.
Oui, parce que ce qui sous-tend aussi votre travail et ce qu'on ressent à sa lecture, ce qu'on comprend à sa lecture, c'est que, on parlait de préjugés tout à l'heure, l'un des préjugés essentiels, c'est que on continue de penser, et là c'est un jugement moral et non pas scientifique, on continue de penser que si les gens sont pauvres, c'est de leur faute.
Voilà, on a cette idée que les pauvres sont pauvres parce que ils sont un problème, parce qu'ils sont une tare, parce qu'ils sont faits de mauvais choix, de mauvais calculs. Et c'est aussi quelque chose qui rassure à notre point de vue, c'est aussi que si on tombait dans la pauvreté, on n'agirait pas comme ça et donc on s'en sortirait. Et ça donne l'impression d'un monde qui, en fait, est bien organisé, avec finalement des pauvres qui ont ce qu'ils méritent, et du tout, puisque nous, nous ne sommes pas pauvres, c'est que nous avons un certain mérite. Effectivement, c'est un jugement qui est très sympa de morale, cette idée qu'ils sont pauvres parce qu'ils l'ont bien mérité, parce qu'ils l'ont cherché, ce qui fonde à raison, de notre point de vue, les inégalités. C'est quelque chose qui devient alors une sorte de raisonnement un peu circulaire. Pourquoi sont-ils pauvres ? Parce qu'ils sont de mauvais comportement, et ils sont de mauvais comportement, et ça sont punis par la pauvreté. Finalement, c'est quelque chose qui est très, très rassurant, parce que ça nous confirme aussi que nos comportements, du coup, sont les bons, et que nous-mêmes, nous n'avons pas de traces d'irrationalité ou de bêtises. Et ce que j'essaye de montrer aussi, c'est qu'un certain nombre de comportements que l'on reproche très facilement aux plus pauvres, par exemple les sachants ostentatoires de biens purement symboliques, ou les sachants compulsifs, ou des choses comme ça, ben finalement, tout le monde les sent craquer à un moment donné pour acheter quelque chose qui est bien au-dessus de nos moyens, c'est pas réservé aux plus pauvres. Nous, le faisons aussi, tu as les classes moyennes, tu as les classes supérieures, etc. La différence qui existe avec les pauvres, c'est pas que nous sommes capables de nous contrôler, nous ne sommes pas plus capables de nous contrôler que la moyenne des personnes les plus pauvres. Ce qui change, c'est que lorsqu'on le fait, ça a moins de conséquences parce qu'on a plus d'argent.
Oui, on en revient à la fameuse phrase de Pierre Desproges, les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Ce qui va dans ce sens, c'est que ce regard moral, il permet aussi de faire reposer sur les individus, en gros, les failles du système, et non pas sur le système qui lui-même entraîne ces failles.
On a une lecture purement individualiste de la situation des pauvres, c'est-à-dire cette idée, ils sont pauvres parce qu'ils ont fait quelque chose. Et le plus souvent, en fait, les pauvres sont pas pauvres parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils sont pauvres parce qu'ils sont nés pauvres, parce qu'ils sont traquites à la pauvreté, parce que cette pauvreté continue à se reproduire. On met ainsi sur la pauvreté sur le code des achats compulsifs dont je parlais. Voilà, les pauvres ne savent pas se retenir, ils s'achètent n'importe quoi, ils s'achètent par exemple des cigarettes. S'ils s'arrêtaient de fumer, ils ne seraient plus pauvres. En fait, c'est vrai que les pauvres fument un peu plus que la moyenne, mais la cigarette est un moyen de gérer en fait la pauvreté, de gérer la difficulté de l'existence. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir pauvre au point de devoir se priver de cigarette. Donc en fait, c'est la pauvreté, par exemple, qui explique le fait que dans les classes populaires et chez les chômeurs, par exemple, on trouve plus de personnes qui fument, et non pas le fait qu'ils fument qui s'explique que n'est pas. En réfléchissant à ça, les pauvres sont pauvres parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont une tare, parce qu'ils ont un problème. Ce qu'on fait disparaître de l'explication, ce qu'on fait disparaître de notre univers, c'est la pauvreté elle-même. Elle devient une simple conséquence, une punition appliquée, alors qu'elle a une force causale, qu'elle est capable de causer, d'expliquer un certain nombre de comportements.
Et il y a toujours ce recours politiquement et on va dire dans le discours public à des exemples frappants où on met en valeur ce que vous appelez le bien de trop. C'est-à-dire l'achat qui devient un peu l'achat totem, censé représenter le côté déraisonnable justement des classes populaires. Ça a longtemps été l'écran plat qu'on a cité de nombreuses fois. Maintenant, c'est devenu le smartphone. Alors que là aussi, il peut y avoir une forme de rationalité derrière un achat qui peut paraître aussi irrationnel quand on a peu de moyens qu'un smartphone dernière génération.
Oui, le smartphone, c'est devenu effectivement celui qui est le plus souvent énoncé. Ce type de paye, il faudra retracer toute l'histoire. À une époque, ça a été les baskets pour les jeunes. Après, c'est devenu la télévision, les trappes-là. Et en fait, ça s'ajoute. Les pauvres, si on suit certains raisonnements, ne devraient strictement rien avoir. Mais le smartphone, c'est d'autant plus frappant qu'il est... C'est pas un piège qui a une valeur symbolique. On l'investit souvent comme ça. Si ça, les pauvres, ils sont des smartphones, c'est parce qu'ils veulent faire comme, ils veulent faire comme des riches. Et en fait, non. Effectivement, un certain nombre de pauvres, même de SDF, ont des smartphones parce qu'ils en ont plus besoin que les riches, en fait, que les plus fortunés. Pourquoi? Parce que c'est pour eux souvent la seule connexion Internet. Ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas forcément d'ordinateur. Ça permet de se connecter à tes Wi-Fi gratuits pour tes personnes qui n'ont pas forcément d'abonnement à Internet. Ça permet de garder le lien avec une famille qui est parfois éloignée. C'est aussi un moyen, l'usage par exemple des médias sociaux, pour les plus pauvres, pour les SDF par exemple, ben c'est un moyen d'avoir un espace sur lequel ils ne sont pas que pauvres, ils ne sont pas que SDF, où ils peuvent se présenter comme étant autre chose, puisqu'ils manipulent un peu plus facilement leur présentation de soi sur ces médias, et c'est un moyen aussi de pouvoir, à un moment donné, relâcher le stigmate, être autre chose que simplement SDF, être pauvre. En fait, le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas avoir un smartphone, c'est pouvoir s'en passer. Pouvoir vivre sa vie en n'ayant jamais retour au smartphone est devenu quelque chose qui est plus distinctif peut-être que la possession de smartphone. On vit dans un univers, dans une société, qui est un environnement qui a été passé pour des chats qui possèdent des smartphones. Même l'attestation de sortie, la période de confinement, on peut désormais la faire sur smartphone. On ne devrait pas s'étonner en fait que les plus pauvres aient aussi un smartphone. Au contraire, ils en ont plus besoin que la moyenne pour faire tes démarches administratives, pour toucher tes revenus d'assistance. Parfois, on n'a pas le choix à part passer par Internet. C'est la dématérialisation des services publics. Il n'y a plus de guichet, il faut prendre un rendez-vous, t'apport sur Internet. Le seul moyen pour les plus pauvres d'y avoir accès, c'est le smartphone.
Il y a quelque chose qui, moi, me frappe et me questionne dans tout ça, c'est que, quelque part, c'est que les classes populaires sont systématiquement coincées entre deux visions ou deux fantasmes qui sont l'un et l'autre à peu près aussi condescendants, c'est-à-dire soit la vision qu'on a décrit là longuement d'un peuple déraisonnable, dépensier, voire à la limite de l'idiotie, incapable de gérer son budget et donc responsable de sa propre condition, ou l'inverse, qui est un fantasme que là aussi on a beaucoup entendu plus de l'autre côté du spectre politique, on va dire plus du côté de la gauche, du peuple nécessairement vertueux, qui fait bien, qui serait parfait, qui serait uniquement on va dire victime de son statut populaire, et jamais d'entre deux, jamais de vision justement ce que vous essayez de faire, un peu plus réaliste, un peu plus rationnel, et de montrer un peu quelle est la réalité de ces classes populaires. Est-ce que le principal problème, et on en revient après ce développement à ma question, est-ce que le principal problème c'est aussi et surtout que les classes populaires n'ont pas accès à la parole médiatique et donc ne peuvent très rarement dire quelle est leur réalité.
Oui, alors ça c'est évidemment un gros problème. Les classes populaires, les plus pauvres, sont ce que Pierre Bourdieu appelait une classe objet et pas une classe sujet. C'est-à-dire ils sont un objet de discours, on parle d'eux, on parle à leur nom, on parle à leur place, mais eux-mêmes ont rarement leur... La parole. Et je suis bien conscient que mon livre recroqueville à partie c'était faux, puisque je ne suis pas moi-même issu ni des classes populaires ni pauvres. Mais effectivement, il serait important qu'il s'ait l'occasion de s'exprimer, qu'il s'y ait des espaces aussi de construction de discours. Le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement en fait qui a pu, pour une partie et une partie seulement, des classes populaires permettre peut-être des formes d'expression et de structuration politique. On verra ce qui en ressortira, je pense que c'est un processus qui va prendre encore du temps et on va voir les conséquences sur un terme assez lent. Mais il y a effectivement ce problème qu'on projette beaucoup de chances dessus, mais on leur donne rarement la parole. Effectivement, il y a aussi cette représentation de classes populaires qui sont forcément vertueuses, forcément travailleuses, etc., qui est plutôt tenue à gauche et qui pose aussi, je pense, un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se représente les classes populaires de cette façon-là, on va forcément trouver un moment donné des personnes qui ne correspondent pas à cette représentation. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va soumettre à la fois la prise de parole et éventuellement l'aide, le secours qu'on va leur porter à ce qu'ils aient apporté un bon comportement. Est-ce qu'on doit mériter, est-ce que le pauvre doit nécessairement être méritant pour qu'on s'intéresse à lui?
Et on en revient à tout ce qui fait le cœur de votre étude sur cet argent et ce rapport à la dépense et à l'économie des classes populaires, et notamment au fait qu'elles sont prises, là on parlait qu'elles étaient prises entre deux fantasmes, elles sont également prises entre deux injonctions, qui est à la fois l'injonction à la frugalité. Les autres classes, les classes supérieures, sont persuadées que les classes populaires doivent nécessairement être frugales, consommer peu, avoir peu de choses, parce qu'elles sont pauvres, justement. Et l'injonction contradictoire, qui est le miroir que renvoie la société de ce qui fait qu'on a réussi, ce qui fait qu'on mène une vie correcte et décente, et ce qui est la consommation à l'excès, à laquelle on est tous soumis en permanence.
Oui, en fait, la consommer est un moyen d'être intégré. C'est pour montrer qu'on participe à la société, qu'on a fait partie, qu'on a une position, il faut consommer. Et donc, on a effectivement cette double injonction. À la fois, les pauvres devraient, en attendant d'eux, qu'ils soient ascétiques, qu'ils fassent des efforts, qu'ils s'épargnent, parce que s'ils s'épargnent, ils vont s'en sortir. C'est faux, pareil. Et d'autre part, ils voient bien qu'ils sont des avis qui sont compréhensibles de consommation. L'exemple typique, c'est sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on donne du Nutella ou pourquoi on amène les enfants au match d'eau? C'est souvent reproché aux pauvres. Bon, voilà, si vous les amenez chez match d'eau, c'est que vous n'êtes pas vraiment pauvre. Ou si vous les amenez à Disney ou des choses comme ça. Et en fait, les parents sont souvent soucieux de protéger les enfants contre les conséquences et le stigmate de la pauvreté, notamment à l'école, où on peut être moqué parce qu'on est pauvre. Ils sont à cœur aussi de protéger les enfants contre les privations. Ils sont obligés de les priver de toute façon, parce qu'ils n'auront pas les moyens de leur donner tout ce dont les enfants rêvent. Et donc là, le match d'eau, le Nutella, c'était moyen, en fait, pour une fois, de pouvoir dire oui. C'est une moyen de les protéger contre la pauvreté. C'est un moyen un peu de trouver un compromis entre ce désir d'intégration par la consommation et les nécessités de les nécessités économiques de la pauvreté. Donc en fait, c'est un luxe, j'en ai parlé dans le livre comme étant un luxe nécessaire ou un luxe accessible. On en a un peu soi et en même temps, effectivement, ça peut s'appeler purement ostentatoire ou un peu exagéré, mais en fait, c'est nécessaire dans la situation où se trouvent les pauvres.
Et en attendant de pouvoir aller acheter chez votre libraire indépendant préféré le livre de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres, paru, je le redis, chez Payot, vous pouvez d'ores et déjà aller vous balader sur son blog que je citais au début de cet épisode, unehoredepeinetoutattaché.blogspot.com. Merci à Denis Colombi pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter le geste barrière et de rester chez vous si vous le pouvez, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse? Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.